Sahara, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Maniakis à la présentation de cette édition du mercredi 19 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Burkina, au moins 15 morts dans deux attaques contre un village et une patrouille. Au Togo, un opposant et ex-ministre condamné à 2 ans de prison. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, toujours en exil, est jugé par contumace à Abidjan. Joe Biden appelle à une escalade, mais pour le moment, aucun signe de répit au Proche-Orient. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Une quinzaine de civils et un soldat ont été tués lors de 2 attaques contre un village et une patrouille dans le nord-est du Burkina Faso de Ouagadougou, les précisions de la mine Traoré.
Ces 15 civils ont péri hier dans des attaques attribuées à des djihadistes à Adjarara, près de la ville de Tinakoff, dans le Sahel burkinabé. L'information a été donnée aujourd'hui dans un communiqué par le gouverneur de la région, le colonel Salfo Kabore. L'attaque a eu lieu dans la nuit du mardi. Selon le gouverneur, ces individus armés non identifiés qui ont fait irruption dans le hameau des cultures de Adjarara, à environ 7 km de Tinakoff, dans la province de Loudalan, dans l'extrême nord. Fin avril, 8 civils avaient été tués à Yatakou et à Koumbré, dans la même région. Il y a quelques jours, l'armée burkinabé avait annoncé avoir lancé depuis le 5 mai une vaste opération militaire dans le nord du pays. Selon l'état-major, au moins une vingtaine de terroristes ont été neutralisés. Selon les Nations Unies, au moins 45 personnes ont été tuées par les récentes violences au Burkina qui ont également forcé plus de 17 500 personnes à fuir leur foyer en un mois. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'opposant et ancien ministre de la communication du Togo, Djimon Oré, a été condamné à 2 ans de prison pour outrage aux représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles. Son avocat a fait appel. Les précisions de Kay Lawson.
24 mois de prison ferme, c'est la sentence infligée à l'ancien ministre togolais de la communication, Djimon Oré, déposé à la prison civile de Lomé le 14 mai dernier, après une garde à vue de 2 semaines. Le président du Fonds patriotique pour la démocratie a été jugé ce mardi par le tribunal de première instance de Lomé. L'opposant togolais a été reconnu coupable d'outrage à l'autorité publique et de diffusion de fake news. Par contre, le juge a estimé que l'accusation de tentative de trouble aggravé à l'ordre public n'était pas établie. Par conséquent, cette charge a été rejetée par la Cour. Pour rappel, Djimon Oré a été interpellé le 29 avril dernier. Il lui a reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du pouvoir de Lomé, qu'il a traité de barbare et de militaro-clanique. Des propos jugés diffamatoires par les autorités togolaises qu'il accuse, entre autres, d'atteinte à l'honneur, de tentative de trouble aggravé à l'ordre public et d'outrage envers les représentants de l'autorité publique. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Un tribunal de Conakry a condamné mercredi un journaliste guinéen à une amende équivalente à 420 euros pour offense au président Alpha Condé et ordonné sa mise en liberté après presque 3 mois de prison. Amadou Dioulde Diallo, commentateur sportif, est l'une des centaines de personnes arrêtées ou jugées ces derniers mois en Guinée pour s'être opposé au 3e mandat du président Alpha Condé. Guillaume Soro, ancien Premier ministre, est jugé par contumace à partir de ce mercredi à Abidjan avec une vingtaine de ses partisans pour une tentative présumée de complot pour renverser le pouvoir. Les précisions de John Linda.
Selon le parquet ivoirien, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre et ancien chef rebelle qui vit en exil depuis 2 ans aurait fomenté une insurrection civile et militaire lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019. Guillaume Soro, 49 ans, est accusé de complot, tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et diffusion de fausses nouvelles. 19 de ses partisans, dont 2 de ses frères, l'ancien ministre et député Alain Lobognon, son bras droit, sont poursuivis pour les mêmes charges. Son avocat et ancienne ministre Afoussi Bamba, elle aussi en exil, est également poursuivi. Ils ont tous réfuté les charges. Le collectif d'avocats qui les défend a dénoncé mardi un simulacre de procès et un règlement de compte politique. Soro et ses partisans risquent la prison à perpétuité.
Hier soir, plusieurs officiers français à un poste au Rwanda entre 1990 et 1994 ont échangé à Paris avec le président rwandais Paul Kagame. Cette rencontre est un nouveau signe d'un réchauffement des relations entre Paris et Kigali. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé que la seconde phase de remplissage du réservoir du grand barrage éthiopien prévu en juillet n'affectera pas les intérêts en eau de son pays. « Nous avons suffisamment de ressources en eau dans le réservoir du barrage à Assouan, dans le sud de l'Égypte », a déclaré M. Shoukry. Addis Abeba a annoncé avoir atteint l'objectif annuel de remplissage de son barrage. Le début de la seconde phase est prévu en juillet, malgré l'absence d'accord avec le Caire et Khartoum. Des migrants ont encore tenté en vain d'atteindre l'enclave espagnole de Ceuta. Depuis lundi, près de 8000 personnes, un chiffre sans précédent, ont rejoint Ceuta. Plus de 5600 ont déjà été expulsés vers le Maroc. L'Espagne a averti mercredi le Maroc que sa position ne changerait pas sur le Sahara occidental, alors que la crise diplomatique entre les deux pays s'est envenimée avec cette vague migratoire inédite à Ceuta. Le Malawi a incinéré mercredi 16 910 doses du vaccin AstraZeneca dont la date de péremption était dépassée depuis mi-avril, les autorités affirmant que leur destruction s'imposait pour assurer un pays encore méfiant à l'égard des vaccins. Le Malawi a reçu 3 lots d'AstraZeneca, dont 300 000 dans le cadre du programme COVAX. Le point sur la pandémie de COVID-19. La maladie a fait près de 3,5 millions de morts dans le monde. Les campagnes de vaccination se poursuivent et de plus en plus de pays lèvent les restrictions. Mohamedou Oufa.
L'Union européenne va permettre l'entrée aux voyageurs ayant reçu les doses de vaccins anti-COVID autorisées au niveau européen. L'Arabie saoudite va investir près $1 milliard pour soutenir les pays d'Afrique confrontés aux effets de la pandémie, a annoncé le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman lors d'un sommet qui s'est terminé hier à Paris. Les Français savourent la réouverture des terrasses, des cafés, des musées, cinémas et théâtres après plus de 6 mois de vie au ralenti. Le couvre-feu est retardé à 21h. Aux États-Unis, les personnes vaccinées peuvent ne plus porter le masque dans l'État de New York, même en intérieur. L'Inde a enregistré un nouveau record de plus de 4500 décès en 24 heures, mais les nouvelles contaminations tendent à la baisse.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël dit attendre le moment opportun pour cesser ses frappes sur la bande de Gaza et ne pas exclure de devoir venir à bout du Hamas si la dissuasion échouait, alors que les tractations diplomatiques s'intensifient pour tenter d'arracher un cessez-le-feu. Nathalie Barge.
Les frappes israéliennes se sont intensifiées sur l'enclave palestinienne visant Khan Younes, Rafah et une tour de Jabalia qui abritait les moyens technologiques du Hamas. Tsahal a aussi mené des tirs d'artillerie vers le sud du Liban après le lancement de 4 roquettes depuis le territoire libanais. Le président américain Joe Biden a dit au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'attendre à une désescalade aujourd'hui vers un cessez-le-feu. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, se rendra demain en Israël et à Ramallah, en Cisjordanie, pour des entretiens. La médiation menée par l'Égypte n'a abouti à aucune avancée concrète. Israël dit ne pas prévoir d'arrêt des hostilités avant d'avoir réduit les capacités militaires du Hamas, tout en précisant que son objectif premier est la dissuasion.
Les États-Unis ne soutiendront pas des actions qui sapent les efforts en faveur d'une désescalade dans le conflit israélo-palestinien, a affirmé mercredi la mission diplomatique américaine à l'ONU en réaction au projet français d'une résolution au Conseil de sécurité appelant à une cessation des hostilités. Cette affirmation indique implicitement que Washington est prêt à mettre son veto au projet français si ce dernier était soumis à un vote. Les ministres américains et russes des Affaires étrangères se rencontrent ce soir en Islande pour jauger la profondeur du fossé qui sépare leurs deux pays rivaux et confirmer la tenue d'un sommet très attendu entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont salué mercredi par visioconférence le lancement des travaux de construction de nouveaux réacteurs dans des centrales nucléaires en Chine en partenariat avec l'agence russe Rosatom. Le président russe a précisé que ces réacteurs seraient mis en service en 2026-2028. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique de ce soir, nous retrouvons John Lydon pour la Minute Éco.
L'État de Côte d'Ivoire vient de lever près de 59 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOI à l'issue de son émission de bons assimilables du Trésor de maturité 364 et 182 jours. Cette levée de fonds est destinée à assurer la couverture des besoins du budget de l'État ivoirien. Colonial Pipeline, l'opérateur de l'oléoduc américain, a indiqué mardi faire de nouveau face à des problèmes informatiques tout en assurant qu'il n'était en aucun cas lié au piratage de son système et que la distribution de produits raffinés se poursuivait. Et selon le site GasBuddy, spécialisé dans le suivi des prix de l'essence, plus de 10 000 stations étaient à court de carburant mardi matin dans le sud-est des États-Unis. Le Bitcoin a plongé mercredi sous la barre des 40 000 dollars, perdant 7% de sa valeur. C'est une première depuis 3 mois après un rappel à l'ordre en Chine contre les crypto-monnaies. La semaine dernière, le Bitcoin valait encore plus de 55 000 dollars. Son cours a fondu de 30%. Les crypto-monnaies ne sont pas de vraies devises, ont estimé mercredi plusieurs banques chinoises.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Deuxième sortie aujourd'hui pour les clubs dans la Basketball Africa League. Dans le groupe A, les Malgaches de GNBC se sont inclinés à nouveau dans cette balle, 72-78, cette fois-ci face aux Rwandais du Patriot, qui enregistrent leur deuxième victoire de rang et donc assurés de disputer les quarts de finale. Pour les Malgaches, en revanche, les carottes sont presque cuites et leurs espoirs de voir l'écart ne reposent plus que sur une hypothétique troisième meilleure place de l'ensemble des groupes. Dans l'autre match du groupe C, les Mozambiquais de Ferroviaro de Maputo ont infligé aux Sénégalais de la S-Douane leur première défaite dans la balle, 88-74. À suivre aussi ce soir le duel maghrébin dans le groupe C entre le Zamalek d'Égypte qui a une victoire à son compteur et le groupement sportif des pétroliers d'Algérie en quête de son premier match dans la compétition. Hier, les Camerounais de FAP ont longtemps mené devant les Marocains de l'AS Salé avant de se faire rattraper puis distancer dans le dernier quart-temps. Score final 87-84 pour les Marocains. Un peu plus tôt, dans la première rencontre, les Angolais de Petro de Luanda étaient face au Bamako de l'AS Police. Lourde défaite des Maliens 84-66 face aux Angolais. Pour le coach malien, Boubacar Kanoté, rien n'est encore perdu.
C'est un problème mental, c'est ce qu'on les a dit dans le dossier. Il nous faut un très bon discours, c'est les jeunes, il faut le remarquer. C'est ce qu'on voit là, c'est le début, c'est pas la fin. C'est le premier match, on devait gagner, mais si on fait, c'est pas la fin du monde. On va le remonter pour les deux prochains matchs.
Boubacar Kanoté, coach de l'AS Police du Mali. Cyclisme au Bénin et de 3 pour Paul Daumont. Le Burkinabé de 22 ans remporte la troisième étape, un critérium de 105 km couru à Parakou. Paul Daumont a devancé son compatriote Souleymane Kone et l'Ivoirien Abou Sanogo. Il garde ainsi son maillot jaune. En football, changement d'adversaire pour la République démocratique du Congo au lieu du Cap-Vert. Comme annoncé samedi dernier, les Léopards feront face aux Aigles du Mali en match amical lors de la fenêtre internationale le 11 juin. Bien avant ce match, la RDC affrontera la Tunisie le 5 juin. Ces deux matchs se joueront à Tunis où les Congolais effectueront leur stage préparatoire sous les ordres de leur nouvel entraîneur Hector Cooper avant de débuter les éliminatoires du Mondial 2022 contre la Tanzanie et le Bénin en septembre. Les Maliens, eux, joueront leur premier match amical contre l'Algérie le 6 juin à Blida. De leur côté, les Lions sénégalais de la Teranga joueront la Zambie le 5 juin et le Cap-Vert 3 jours plus tard.
Merci Yacouba pour l'espoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manrakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, la manifestation de ce mercredi contre la junte militaire au pouvoir dirigée par le général Mahamat Idriss Déby n'a pas eu lieu. Les militaires ont pris d'assaut les espaces vides et les coins stratégiques empêchant tout regroupement. Cependant, les manifestations pour soutenir le conseil militaire sont autorisées. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point d'Ndjamena.
La manifestation avait été interdite par les autorités de transition. Très tôt, ce 19 mai, les quartiers où résident les responsables de la coalition Wakitama ont été quadrillés par les éléments de la DGCE, la garde prétorienne. De mouvements sporadiques très vite étouffés par des militaires lourdement armés et des bastonnades et arrestations à domicile ont été signalés, comme en témoigne Djemadoum Terasna, habitant le quartier Gassi, commune du 7e arrondissement de la capitale.
C'est autour de 5h30 que nous étions encore sur nos couches avec ma famille et il y a une dizaine de véhicules des militaires belarusses qui étaient descendus et ils sont entrés dans ma concession et sans poser la question, c'est des coups de matraque. Moi-même, j'ai reçu une dizaine de coups de fouet. Il y a un militaire qui voulait tirer même sur les enfants qui sont à l'intérieur. Et je suis allé dire gentiment à mes enfants de sortir. Et moi-même, j'ai ouvert la porte et les enfants qui étaient à l'intérieur sont sortis. Ils les ont ramassés donc dans ma concession au moins 4 personnes et 2 sont convalescents. Il y a un enfant de 15 ans qui a été aussi embarqué. Je demande la libération pure et simple de mes enfants parce que nous sommes à l'intérêt de la concession. Nous ne sommes même pas sortis dans la rue.
Des arrestations ont été également signalées à Bangor, province du Mayo-Kibi-Est, et à Mundu, province du Logone occidental, capitale économique du Tchad. Le président du parti réformiste Yassine Abdraman Sakine, à la tête d'une colonne des marcheurs dans la commune du 8e arrondissement municipal, a été également arrêté avec quelques militants de son parti. Docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, lance un appel à l'endroit de la communauté internationale en ces termes.
Mais je voudrais alerter le monde entier que notre pays est à la croisée des chemins. Ceux qui espèrent que nous allons, nous, peuple tchadien, nous mettre encore à genoux, qu'ils soient des partenaires du Tchad, qu'ils soient des partenaires internationaux, qu'ils soient l'ancien système qui veut se muter, nous voulons leur dire qu'ils finiront tous par la petite porte. Il y a 2 Tchads aujourd'hui. Le Tchad de ceux qui sont escortés par les forces de sécurité dont le transport est assuré et qui sont escortés pour marcher, pour demander que le statu quo reste. Et puis il y a le Tchad de ceux qui veulent la justice, qui eux n'ont pas le droit de marcher. Et s'ils marchent pacifiquement, on les tue et on les empêche même de pleurer les morts.
L'ancien président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et avocat au barreau du Tchad, Maître Midaï Guéribaï, dénonce le comportement des autorités de transition qui cherchent à diviser les Tchadiens.
Nous sommes dans un système de non-droit. La chose la plus importante dans une république, c'est d'abord la constitution qu'on n'a même pas eu de difficulté à la déchirer. Et donc, ce n'est pas choisir des gens qui doivent marcher qui poseraient de problèmes. Le danger, c'est que de créer dans l'esprit des gens qu'il y a des citoyens de seconde zone, qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont aucun droit. Et je crois que c'est très dangereux. Je pense que les nouvelles autorités doivent comprendre qu'il est temps d'avoir une loi pour tout le monde.
Entre-temps, des marches pacifiques des organisations pour soutenir la junte militaire au pouvoir prévues ce jeudi 20 mai sont autorisées. Il s'agit de rassemblement de la coalition Tchad en marche et nouvelle vision de plateforme favorable à la transition militaire. André Kodumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Lever les brevets pour permettre à l'Afrique de fabriquer ses propres vaccins. La communauté internationale réunie à Paris a promis d'aider le continent sur le plan sanitaire, mais sans prendre d'engagement financier ferme pour soulager les économies asphyxiées. Les précisions de John Lyndon.
Lors de ce sommet qui a réuni une trentaine de dirigeants africains et européens ainsi que les grandes organisations économiques internationales, Emmanuel Macron a dévoilé l'une de ses plus grandes initiatives envers l'Afrique.
La première initiative, c'est une initiative très forte pour produire massivement des vaccins en Afrique pour l'Afrique. Et donc de développer par des partenariats de financement et industriels, une capacité à produire en Afrique des vaccins de tout type.
Le projet adopté par tous les participants devrait bénéficier des financements de la Banque mondiale. Mais sur la question des vaccins, le président sénégalais Macky Sall a tiré la sonnette d'alarme.
Nous avons une responsabilité commune, et que vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. C'est évident que si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants.
Également présent à Paris, le président congolais Félix Tshisekedi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, a lui souligné à propos de la vaccination que l'enjeu était aussi de convaincre les populations.
Il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations.
L'Afrique fait figure de continent relativement épargné sur le plan sanitaire avec 130 000 morts du Covid-19 selon les chiffres officiels sur un total mondial de près de 3,4 millions. Mais elle paye un très lourd tribut économique et social. Selon le FMI, l'Afrique a besoin de près de 300 milliards de dollars. Le continent a besoin d'investir massivement pour enrayer la pauvreté, développer les infrastructures, affronter le changement climatique et la menace djihadiste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a visité mardi une usine de véhicules électriques dans le Michigan, où il a plaidé en faveur de son plan de véhicules électriques de 174 milliards de dollars. Un plan qu'il explique être dans le contexte de la concurrence contre la Chine. Le reportage de la correspondante de VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara. Le récit est de Rosine Munezero.
Président Joe Biden, qui se dit un garde de la voiture, était mardi dans un camion électrique F-150 Lightning sur le site d'essai de Ford à Dearborn dans l'État de Michigan. Avant d'essayer le véhicule, Biden a scruté le camion, dernier cri que le constructeur américain dévoile ce mercredi. Pour Biden, l'avenir de l'industrie automobile est électrique.
L'avenir de l'industrie automobile est électrique. Il n'y a pas de retour en arrière.
Le président a visité l'usine de Ford et a plaidé pour 174 milliards de dollars pour aider le pays à accélérer la transition vers les véhicules électriques, y compris des crédits d'impôt et d'autres incitations pour dissuader les Américains à abandonner les véhicules à essence. Biden se place dans le contexte de concurrence avec la Chine, actuel leader mondial de la fabrication de véhicules électriques, ainsi que le marché le plus grand et à la croissance la plus rapide.
Aujourd'hui, la Chine a une plus grande échelle de fabrication de tous les autres pays. Elle utilise cette position pour fabriquer des batteries, pas seulement en Chine, mais en Allemagne et au Mexique. Les Chinois exportent maintenant ces véhicules électriques à travers le monde, avec des vues sur le marché américain. Et ils pensent qu'ils vont gagner, mais j'ai des nouvelles pour eux. Ils ne vont pas gagner cette course.
Les constructeurs nord-américains sont sur la voie de construire 1,4 million de voitures électriques par an d'ici 2028, selon la société LMC Automobile. Mais d'ici là, la Chine produira plus de 8 millions par an. Timothy Meyer, de l'université Vanderbilt.
Et puis ces faibles barrières commerciales qui ont permis à la Chine d'exporter ses produits aux États-Unis. Et la combinaison de ces deux choses donne vraiment à la Chine ce que l'administration Biden considère comme un avantage injuste. Et l'administration Biden prend des mesures comme les administrations américaines précédentes pour essayer de faire reculer ces avantages.
Au niveau national, le plan de Biden comprend des efforts pour convaincre les travailleurs de l'automobile que plus de voitures électriques signifie plus d'emplois bien rémunérés. Harry Shaken est professeur à l'Université de Californie.
And politically, this is very popular with ordinary people.
Politiquement, c'est très populaire auprès des gens ordinaires. Cela signifie les travailleurs républicains, les fonctionnaires locaux, ainsi que les démocrates et les indépendants. Donc, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup d'énergie en politique.
Le projet du président américain pour les voitures électriques fait partie de son plan d'emploi et d'infrastructure de 2 000 milliards de dollars, actuellement débattu au Congrès.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la nouvelle montée de tensions au Moyen-Orient. Entre bombardements intensifs de l'aviation israélienne sur Gaza et des tirs de roquettes sur l'État hébreu, la communauté internationale s'inquiète sans toutefois être en mesure de se faire entendre. Cette dernière crise remet sur la table la question des expulsions de familles palestiniennes à Jérusalem-Est et les constructions israéliennes en Cisjordanie. Avec nos invités, nous analyserons cette crise entre Palestiniens et Israéliens, ainsi que ses implications régionales et internationales. Ce sera ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
En Guinée, le cyclisme est loin d'être un sport populaire comme le football. Le pays n'a pas pu organiser le Tour international en 2020 pour cause de Covid-19. L'édition de 2019 a connu la participation de 8 pays, dont le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est le Burkinabé Sadou Diallo qui a gagné la 9e édition du Tour cycliste international de Guinée. Un événement télévisé, mais qui reste très peu connu du grand public, à l'image de ces Guinéens rencontrés à Conakry.
J'ai une fois assisté à un entraînement de cyclisme à l'esplanade du stade Nongo ici. J'ai une fois assisté à la télé. J'ai beaucoup apprécié. C'était impressionnant.
Cycliste, c'est quoi ça, cyclisme? Au fait, je voyais les gens qui font ça, mais je ne connaissais pas le nom. C'est ma première fois d'entendre.
J'entends les gens parler, mais je n'ai jamais assisté ou bien regardé, même si c'est à la télé.
Ah, dans mon pays, je ne connais rien. Je ne sais rien de ce qui se passe avec le cyclisme. Ce que moi, je connais, les fédérations guinéennes de football, de handball, de volleyball, de basketball.
La fédération cyclisme de Guinée organisait ça à l'époque de temps, là, ça racontait. Mais maintenant, là, je ne vois plus à la télé.
Le cyclisme, une discipline qui attire chaque année de plus en plus de jeunes, c'est du moins le constat de Hadja Amina Tamara, présidente de la Fédération guinéenne du cyclisme.
Nous sommes envahis maintenant parce que c'est une discipline qui intéresse maintenant les jeunes. Et avant, laissez-moi vous dire qu'avant, le vélo, on pensait seulement aux garçons. Maintenant, c'est quelque chose qui intéresse aussi les filles. Et c'est pourquoi l'édition 2019, il y a eu le circuit fermé des filles.
L'ambition ne manque pas chez les coureurs, mais pour Abdoulaye Bangoura, elle ne suffit pas pour être vainqueur d'un tour cycliste.
Nous avons moins d'activités sur le plan national, qui est aussi très compliqué. Nous avons que le tour international de Guinée. Donc c'est ça qui fait que nous sommes toujours dans l'oubliette. Sur le point de la route, c'est compliqué, mais voilà, on essaie de se débrouiller dans les zones qui sont praticables. Et nous n'avons pas toujours les matériels qu'il faut. C'est compliqué, donc on essaie de se débrouiller pour au moins rester actif.
Les coureurs guinéens n'ont pas de sponsors, ils ne font pas partie des stars du cyclisme africain, mais la Fédération guinéenne du cyclisme peut se réjouir de la réussite du Tour cycliste de Guinée. Hadja Amina Tamara, présidente de la Fédération.
Ce que la Guinée donne en matière de prix, les autres, c'est des zones CFA. Mais quand vous comparez, c'est pas la même chose. C'est pourquoi les autres, ils tiennent à venir compétir chez nous. Et je vous dis franchement que c'est l'occasion pour moi de remercier mon ministère de tutelle qui met le paquet, il y a le tour international, vraiment, qui est là, qui nous accompagne matériellement et financièrement. Et c'est ce qui encourage les autres pays à venir en Guinée pour compétir.
Zakaria Tamara pour VOA Afrique, Conakry.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Lionel Lunanela Gahima, Joselle Morissin et Georges Léonard Sagnot. Eric Manlakiza était avec vous à la présentation, et si va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.